Christine est à son salon. Le téléphone sonne. Elle a décroché.
Allô ?
Allô, madame ? Vous êtes bien Christine Combeau et votre mari est bien monsieur Hubert Combeau ?
Oui, monsieur. Que se passe-t-il ?
Votre mari, madame, a eu un accident. Si vous pouviez venir à l'hôpital Sainte-Geneviève à...
Bien, j'arrive. Il est mort ?
Non, madame.
C'est toujours ce que vous dites. Bien, j'arrive.
Et elle sort du salon. Elle trouve dans le couloir la bonne et lui dit
« Je m'en vais. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Monsieur a eu un accident. »
« C'est grave, madame. »
« Oui, mais ne vous en faites pas. Je vous garderai. »«
Bien, madame. »
Et elle va dans sa chambre pour s'habiller. Elle se choisit un petit tailleur noir avec des boutons dorés. Se déshabille. Toute nue. Et met le tailleur comme ça. Prend un petit sac noir et sort de la chambre.
Elle file, file. L'hôpital est à 200 km de Paris. Arrivée à l'hôpital, elle va à l'accueil.
Bonjour monsieur, je suis madame Combeau et mon mari vient d'avoir un accident.
Attendez madame. Il est aux urgences. Non, non. On l'opère. C'est bien Combeau Hubert.
Oui. Est-ce grave ?
Je ne sais pas, madame. Vous voulez parler au chirurgien ?
Oui, puisque je suis là.
Bien, attendez à la salle d'attente.
Et elle va à la salle d'attente.
Trois heures plus tard,
Un homme grand, mince, short, teint, dans les 35 ans, en blouse blanche, va vers elle. Il lui demande « Madame ?»«
Madame Combeau ?»
Elle se lève.
« Oui, monsieur. »«
Je suis le docteur Paul Mort. C'est moi qui ai opéré votre mari. » »«
Qu'y a-t-il ? » ?»« Que lui est-il arrivé ?»«
Veuillez me suivre, madame. » Elle le suit. Entrez. L'amener dans son bureau, qui est une petite pièce toute blanche, avec une table qui sert de bureau, deux chaises en plastique, dont une pour la visiteuse, et une armoire de métal pour les dossiers. Asseyez-vous, madame. Et lui va s'asseoir à son bureau.
Il lui dit, voilà, votre mari a eu un très grave accident de voiture. Sa voiture, qui allait très vite, a raté un virage et s'est cogné contre un mur. Cage thoracique brisée, bras, jambes ont reçu des coups, mais le plus grave, c'est que le crâne a reçu un choc, et on peut même dire le choc, le plus important.
La boîte crânienne a été défoncée. Nous l'avons ouverte, épongé le sang, mais nous ne savons pas si le cerveau a été endommagé. Je dois vous dire la vérité. Il peut s'en sortir et être paralysé toute sa vie. Peut-être amnésique toute sa vie. Changer de caractère ou bien autre chose. Demain, nous allons lui faire le thorax.
Elle lui demande « Est-il perdu ?»«
Je ne crois pas. Il a eu de la chance, mais on ne sait jamais. »
Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Vous êtes allé à la gendarmerie ?
Non.
Il faudra pour les papiers. Et ici, aussi pour la sécurité sociale.
Elle lui demande, pourrais-je le voir?
Pas aujourd'hui. Peut-être. Un jour, dans 10 jours, une dizaine de jours.
Mais il ne pourra pas vous parler. Il sera à demi conscient.
Elle a fait les papiers, le secrétariat d'hôpital est allé à la gendarmerie. Les gendarmes lui ont expliqué l'accident et ont dit qu'il gardait la voiture, ou plutôt l'épave. Puis, elle est retournée à Paris. Arrivée chez elle, elle va téléphoner à Georges pour tout lui dire.
Allô, c'est moi. Non, il n'est pas mort, mais il est dans un triste état et risque de perdre la mémoire.
Thank you.
Une semaine plus tard, elle retourne à l'hôpital où le médecin la reçoit. Il lui dit « Bonne nouvelle, votre mari reprend petit à petit. » Elle lui demande « A-t-il repris la mémoire, tous ses esprits ?»«
Non, il est encore en réanimation, mais l'on peut être sûr, c'est que son cerveau est intact. »
Elle lui demande « Là veut-il dire qu'il va retrouver la mémoire ?»«
Oui, madame. » Vous pouvez en être sûr et tranquille.
À Paris, elle est dans la chambre de son amant. Ils sont tous les deux au lit, à moitié nus. Elle lui donne les nouvelles. Il lui dit « Surtout la mémoire, nous sommes perdus. Il voudra divorcer. Et là, nous ne pourrons pas essayer de le tuer. La police aura des soupçons. » Elle lui demande « Que faire ?»«
Je vais réfléchir et nous verrons. »
Deux semaines plus tard, elle va à l'hôpital et dit au chirurgien qui s'occupe de son mari.
« Est-ce que mon mari peut voyager en ambulance ?»«
Pourquoi, madame ?»«
Parce que je veux la ramener à Paris, pour qu'il soit près de moi. J'ai trouvé une clinique très bien, la clinique Genetou. »
Il lui dit « Si c'est Genetou, c'est comme si vous m'aviez dit dans les années 80 l'hôpital américain. »
« Oui, pourquoi pas. »
« Mais avec beaucoup de soins, bien entendu. »
Elle lui dit
« Bien, dès que la clinique accepte de la voir, nous vous envoyons une ambulance. »
La clinique Genetou a accepté de prendre le malade, surtout que la clinique est très spécialisée dans le cerveau. Elle a envoyé une ambulance pour prendre le patient, qui est toujours inconscient. Il a eu l'opération du cerveau, du thorax, sans compter les jambes et les bras. Il a été mis dans une chambre où il y a tout ce qu'il faut pour la réanimation. Riquin a reçu Christine dans son bureau.
Il lui dit « Ne vous en faites pas, madame. Votre mari est en très bonne main. »
Elle lui dit « Ce qui me chagrine, c'est son cerveau. Va-t-il être handicapé ?»
Riquin lui répond « Je ne le pense pas. Tout semble aller. »
Elle lui demande « Et la mémoire ?»
Il lui dit « Comme il ne peut pas encore parler, j'ai fait une radio très approfondie du cerveau. Et je peux vous assurer, c'est que la mémoire n'a pas été touchée. »
Elle lui dit, « Alors, il va se rappeler de tout.
Oui, madame, bien sûr. Elle soupire. Il lui dit, je comprends, vous êtes soulagée. Elle lui dit, c'est-à-dire. Il se lève et lui dit, venez, je vais vous montrer. Vous verrez comme il est bien chez nous.
Il se lève et le suit. Ils sortent du bureau. Venez. Il l'amène. Entrez dans une petite pièce. Vous allez mettre une combinaison, des chaussures spéciales et un petit bonnet à cause des microbes. C'est ce qu'elle fait. Elle met sa combinaison, le petit bonnet. Qu'elle est habillée. Venez, nous allons aller dans la chambre de votre mari. Entrez.
Son mari est allongé sur un lit, presque nu, avec juste un drap sur lui. Il a un pansement sur la tête et à la poitrine. Il ne bouge pas, il est raide. Tuyau pour l'air, le sang, l'alimentation, etc. Un écran ordinateur pour voir si tout se passe bien. Elle lui dit, c'est très impressionnant. Il lui dit, oui, ça lui aide pour vivre. Elle s'approche de lui. Il a les yeux fermés. Elle demande, « Il dort ?»«
Oui. »«
Il peut m'entendre ?»«
Oui. »«
C'est moi, mon chéri. Tu m'entends ?»« Tu vas aller maintenant. Tout va aller. Tu es entre bonnes mains. »
Elle l'embrasse sur la joue.
Elle demande à Riquin, « Pourrais-je venir le voir souvent ?»
Au genre des visites, de 14h à 16h.
À son retour à Paris, elle raconte à son amant ce qu'elle a vu. Georges lui dit,
il faut faire quelque chose. J'ai lu un article scientifique qui disait que l'on pouvait faire des tas de choses sur le cerveau maintenant.
Elle lui dit, il ne voudra jamais le faire.
Il lui dit, va voir celui qui est au-dessus de lui et propose-lui de l'argent.
Bien, je vais voir.
Elle a cherché dans la présentation du groupe qui était au-dessus de Riquin. Elle a lu Danfort avec l'adresse de son bureau qui est au siège.
Elle prend son courage à deux mains.
Allô? Je suis bien au groupe. Je me tous. J'aimerais avoir rendez-vous avec Monsieur Danfort.
Qui êtes-vous, madame?
Je suis Madame Christine Combeau, des Écrous Combeau.
Bien, je vais voir madame. C'est à quel sujet?
C'est personnel.
Bien, madame.
Monsieur Danfort veut bien vous recevoir une demi-heure demain à 15h, au siège, 15e étage.
Bien, je vous remercie, mademoiselle.
Au revoir, madame.
Au revoir.
Et le lendemain, elle est entrée au siège.
Pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage. Une hôtesse en tailleur rouge l'amène au bureau de Monsieur Danfort. Elle frappe. Entrez, madame. Elle entre. Danfort est à son bureau. Il se lève et lui dit: bonjour, madame. Vous avez demandé à me voir. Venez vous asseoir. Bonjour, monsieur.
Je vous écoute, madame.
Elle lui dit: c'est assez compliqué, mais voilà. Mon mari a eu un grave accident et il est à votre clinique. Il a été touché au cerveau. Mon mari et moi, nous sommes disputés avant l'accident. Et ce souvenir m'est très pénible. Et lui sera à lui aussi très pénible. Et j'aimerais essayer de lui éviter un choc, tout choc. C'est pour cela que j'aimerais qu'il puisse, lorsqu'il se réveillera, ne plus se rappeler cette vilaine dispute. L'enfant lui dit:
rassurez-vous, madame, lorsque votre mari aura repris sa conscience, je suis sûr qu'il ne pensera plus à cette petite dispute, comme vous dites.
Elle lui dit: je serais plus rassurée s'il ne pouvait ne pas se rappeler et en être sûr.
Il lui dit: c'est impossible, on ne peut pas le savoir.
Elle lui dit: il paraît qu'il y a un moyen efficace pour qu'il oublie.
L'enfant lui dit: non, madame.
Elle lui dit: même avec une très bonne somme.
Il lui dit: je ne peux rien faire pour vous.
Elle lui dit: alors je suis perdu.
Il lui dit: pas tout à fait. La somme est de combien?
5 millions, au compte que vous voulez.
Il lui dit: je vois. Je vais vous donner le numéro d'un compte secret. Il marque sur un morceau de papier et le lui donne. Il lui dit: je ne peux rien faire, mais je peux vous aider. Disons dans une semaine, lorsque j'aurai reçu l'argent, je m'arrangerai pour que vous puissiez entrer dans la chambre de votre mari. Il n'y aura personne, et là vous ferez ce que vous voudrez. N'oubliez pas qu'en débranchant une heure l'oxygène et le sang, les cellules du cerveau meurent. Peut-être pas toutes, mais beaucoup. Je ne peux rien pour vous, rien faire de plus. Je vous préviendrai quand vous pourrez faire la chose. Tenez-moi votre numéro de téléphone et envoyez-moi la somme.
Une semaine plus tard, il est 15h. Elle est entrée dans la clinique. Il n'y a personne, ni dans le hall, ni dans le couloir. Réunion exceptionnelle syndicale.
chambre de son mari sans être déshabillée. Il est toujours allongé, ne bouge pas. Elle le regarde, puis débranche les tuyaux de tisane. Quand elle, en le débranchant, elle ne le regarde pas. Le sang et tout. Une fois qu'elle a fait les bottes débranchements, elle va s'asseoir sur une chaise.
La chaise est à côté du lit. Il est allongé, sans bouger. Son mari a des râles. Il suffoque. Il a des secousses nerveuses. Il devient blanc, bleu. Les yeux s'ouvrent. Il suffoque de plus en plus. Les tremblements sont de plus en plus forts. Cela est insoutenable à voir. Et ce râle. Elle en a des sueurs froides. Les râles sont de plus en plus forts. Les tremblements aussi. Puis, petit à petit, il diminue. Le râle devient de moins en moins audible. Le corps se raidit. Elle prend peur, panique. Vouloir tuer quelqu'un, elle demandait à une personne, c'est une chose. Mais tuer soi-même une personne, c'est autre chose. Elle n'entend plus qu'un sifflement. Se penche vers lui. D'un coup, elle se lève. Et en tremblant, elle remet en place les tuyaux pour lui redonner l'oxygène, la respiration. Dès qu'elle a remis l'oxygène, sa respiration devient rapide et forte. Il reprend des couleurs. Sa poitrine se gonfle. Sa respiration est très forte. Puis, elle devient normale. Les larmes aux yeux. Elle se penche vers lui, l'embrasse sur le front et lui dit « Pardonne-moi, pardonne-moi. »
Et elle se sauve en courant.
Elle est sortie de l'hôpital sans être vue. Le téléphone sonne. Le téléphone est sur sa table de nuit.
Allô? Oui.
C'est moi. Alors?
Je n'ai pas pu. Pardonne-moi.
Tu n'es qu'une conne. Adieu.
Elle panique et lui dit
« Attends, je l'ai débranché au moins un quart d'heure. C'est peut-être suffisant. Si tu l'avais vu, il était près de la mort.
T'aurais dû l'achever.
Je suis lâche, pardonne-moi. Je te tiendrai au courant. »
Elle retourne à l'hôpital et comme à son habitude, elle demande à l'infirmière
« Est-ce que tout se passe bien ?»«
Oui, madame. » »«
Ne vous faites pas de soucis, » elle lui dit. « Et chichiquement, la mémoire ?»«
Là, pour ne pas savoir, je vous dis que tout se passe bien parce qu'il respire normalement. » Mais on ne sait pas pour le reste.
Les jours passent. Et un jour, elle reçoit un appel téléphonique. Qui lui dit
« Votre mari est définitivement réveillé. »«
Comment va-t-il ? » ?»«
Très bien. Nous allons lui faire des tests.
Il n'y a plus besoin de soins intensifs. »« A-t-il retrouvé toutes ses fonctions intellectuelles ?»«
Absolument.
Nous allons lui faire des tests. Vous pouvez venir le voir. Les visites sont de 14h à 21h. Chambre 152. »«
Merci. »
Dans la chambre. Son mari est allongé dans un lit, sous le drap. Il a encore des pansements à la tête et à la poitrine, mais n'a plus de tuyaux. Elle s'avance vers le lit.
Elle voit qu'il est réveillé.
Bonjour, je suis très heureuse que tu sois guéri.
Il lui dit « Bonjour, j'ai encore mes pansements et je ne peux pas bouger. »
Elle lui demande « Tu souffres ?»«
Non, ça va. Je suis très fatigué. »
« C'est normal. Tu as eu un très grave accident. On t'a opéré de la tête et de la poitrine. Tu t'en souviens ?»«
Non, de rien. Sûrement le choc. »
Et tu te souviens d'avant l'accident ?
Oui, bien sûr, puisque je te reconnais.
Elle se pince les lèvres.
Mais tu te souviens de tout ?
Mais ma chérie, voyons, ne crains rien. Je me souviens de nous deux et tout. Tout va bien aller.
Elle l'embrasse sur le front, les larmes aux yeux.
J'en suis très heureuse.
Les jours passent. Elle va le voir tous les jours et le voit reprendre des forces et ses facultés mentales. Elle téléphone à son amant et lui dit
« Il est normal, il a toute sa mémoire, mais ne parle pas de divorce. »
Il lui dit « Peut-être qu'il a oublié ou n'en veut-il plus ?»
Thank you.
Les jours passent. Un jour, Riquin lui dit
« Tout se passe bien. Il est complètement guéri. Vous pouvez le reprendre chez vous. »
Il se repose un peu et reprenne ses activités.
Elle lui demande « Et du point de vue du cerveau ?»«
Tout va bien. Il est comme avant. Il ne lui manque rien. Votre mari vous est rendu en entier. »
Elle lui dit « Merci docteur, j'en suis très heureuse. Je peux le ramener à la maison quand ?»«
Eh bien demain si vous le désirez. »
Elle réfléchit et lui dit « Le temps que je prépare tout, demain après-midi. »
Arrivée chez elle, elle fait préparer la chambre de son mari, téléphone à son amant qu'il revient vivre chez lui, prépare des menus légers pour lui et, à 14h, elle va en ambulance chercher son mari.
Dans sa chambre, habillé, rasé, avec une petite valise près de lui. Elle lui trouve le teint clair et rajeuni. Elle va vers lui, l'embrasse.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.